Donc, on va commencer Bezrat Hashem, la Mishnah Brachot. Avant de commencer, je voulais vous dire un petit peu quelques mots de l'introduction que Maïmonide a écrit. Vous savez que Maïmonide a écrit un grand commentaire sur la Mishnah, sur toutes les Mishnayot. Et puisque la Mishnah Brachot, c'est la première Mishnah, donc c'est le premier traité de toutes les Mishnayot, donc il a écrit une longue introduction sur le concept de la Mishnah. Ah bon, je ne vais pas vous la faire entièrement, mais je vais vous dire quelques points, parce que je pense que c'est important. C'est important de comprendre ce qu'il dit Maïmonide pour comprendre comment ça marche la Mishnah. Maïmonide nous rappelle que tous les dinim, toutes les halakhot qu'on va retrouver dans la Mishnah vont se séparer en général en cinq catégories. C'est-à-dire tout ce qu'on va utiliser dans la Mishnah, ça va rentrer dans l'une des cinq catégories. C'est quoi les cinq catégories? Première catégorie, c'est des choses qu'on a reçues directement de Moshe Rabbeinu. Des choses qu'on a reçues directement de Moshe Rabbeinu, d'accord? Mais qu'ils ont une allusion dans le verset. Ou bien qu'au moins, ça veut dire, quand on cherche, on peut le trouver dans le verset. Ça, c'est une première catégorie. Par exemple, voilà, mettre les tefillin. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, la Mishnah ne s'arrêtera pas sur ce qui est écrit explicitement dans la Torah. Mishnah viendra pas et te dira pas il est interdit de manger le chametz pendant 7 jours, parce que ça je le sais déjà, c'est écrit. La Mishnah part d'une base que la personne connaît déjà ce qui est écrit dans la Torah. Le sens simple, il le connaît déjà.
Et les tefillin, c'est explicite dans la Torah.
Voilà. Tefillin, non, c'est pas explicite, c'est écrit Vayu le totafot ben enecha. Ils seront en totafot, qu'est-ce que c'est les totafot? Entre tes yeux. Donc c'est imprécis. Donc c'est là qu'on va intervenir. C'est un exemple que je donne. Donc, première catégorie pour de dinim que la Mishnah va nous apprendre, c'est des choses qu'on a appris de mettre en élève depuis Moshe Rabbeinu, mais qu'on retrouve en allusion dans la Torah. Il y a des choses, plusieurs choses comme ça que si Moshe Rabbeinu ne l'avait pas dit, je ne l'aurais pas trouvé. Mais une fois qu'on me le dit, je dis oui, effectivement, c'est écrit. C'est-à-dire, on me montre que c'est en vérité s'il y avait une allusion. Par exemple, en ce moment, on a appris dans le cours de Gemara du dimanche matin, on a appris par exemple hier que du fait que c'est écrit dans la Torah, qu'on devra rendre l'âne, ça veut dire on a dit pour une trouvaille. C'est-à-dire quand on dit si tu as trouvé l'âne ou si tu as trouvé le vêtement, et ainsi tu feras pour toute perte de ton ami, on a dit pourquoi tu as besoin de me rajouter toute perte? On l'a déjà compris. C'est bon, ça va de soi. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que du mot toute perte, c'est une allusion pour m'apprendre que on doit rendre même une perte d'un terrain. C'est pas seulement du mobilier, et même de l'immobilier, il faut le rendre. C'est-à-dire, si je vois l'immobilier de quelqu'un qui est en train de s'endommager, j'ai l'obligation de tout faire pour que ça s'arrête. Ça s'appelle un remède, une allusion. Ça veut dire qu'on va te montrer une allusion, on va te dire que c'était écrit dans la Torah. Si tu me l'avais pas dit, je l'aurais pas trouvé. Mais une fois que tu me le dis, je vois qu'effectivement, bon, il y a une allusion. Deuxième catégorie, nous dit Maïmonide, c'est ce qu'on appelle Halakha le Moshe Mishinaï. Halakha le Moshe Mishinaï, ça veut dire c'est ce qu'on a reçu directement de Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï et qu'il n'y a aucune preuve dans la Torah. Un exemple, que les tefillines doivent être noires. C'est écrit nulle part dans la Torah. Il n'y a aucune allusion à ça dans la Torah.
Ou en cuir.
D'accord?
Ou en sel.
Non, en cuir, il y a une allusion. Mais qu'il soit noir, il n'y a aucune allusion. C'est pas écrit nulle part.
Le
d'accord? C'est écrit nulle part.
On est obligé qu'ils doivent être noirs?
Oui. C'est Halakha le Moshe Mishinaï. Ah. Oui? Oui.
Ouais. Poser la question.
Ça, c'est une deuxième catégorie. Deuxième catégorie de Zinim, c'est des choses qu'on a reçues de Moshe Rabbeinu, de mettre en œuvre, et qui ne sont pas du tout allusionnés dans la Torah. Troisième catégorie de dinim qu'on utilise dans la Mishnah, c'est des dinim qu'on va prendre par la logique. C'est-à-dire, c'est des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah. Et qu'on va prendre par la logique. Par exemple, dans la Gemara en ce moment, on apprenait les lois de rendre une trouvaille. Il y a beaucoup, la Torah te donne le principe, le concept, mais après, il y a beaucoup de cas qui ne sont pas écrits, qu'on va devoir les trouver de nous-mêmes. D'accord? Et c'est là que va venir la majorité des machloquettes qu'il y a dans la Gemara. La majorité des machloquettes qu'il y a dans la Gemara vont intervenir dans ce terrain qu'on appelle le terrain gris. Ça veut dire que c'est des choses qui ne sont pas écrites. La Torah dit ni oui ni non. Et c'est à nous d'essayer de comparer, c'est ce qu'ils font les juges et les avocats. D'accord?
On a un cas avec
voilà. Il faut essayer de comparer à un autre cas qui existe déjà. Parce que si tout était écrit, les juges ne servent à rien, les avocats ne servent à rien. Pourquoi ils interviennent? Parce que c'est pas écrit.
Il faut interpréter.
Ça s'appelle une svara dans la Torah. Zvara, c'est une logique. C'est tous les cas qu'on apprend par la logique, qui ne sont pas écrits dans la Torah. Et qu'on ne cherche pas qu'ils soient écrits, puisque... Alors, il faut savoir que la Gemara, elle dit plusieurs fois, que quand on arrive à démontrer quelque chose par la logique, ça a une force comme si c'était écrit dans la Torah.
Donc il n'y a que des choses positives, pas négatives.
Tout ?
Ça
c'est pour un onesh, oui.
Voilà. Ouais. Donc c'est que des méthodes positives.
Mais si je me base, seconde, c'est un calvachomer. Dine, c'est un calvachomer. Quand je parle, je referme. C'est pas exactement la logique. Parce qu'il y a des cas que la Torah ne dit pas explicitement. Et qu'on est obligé d'apprendre. La Torah donne le concept.
L'éthique moderne.
Oui. Ensuite, quatrième catégorie, après j'attaque tout de suite la Mishnah. Quatrième catégorie, c'est les barrières que les Chachamim ont instaurées dans chaque génération. Ça veut dire par exemple, les Chachamim te disent que, disons que si par exemple normalement, pour le, je sais pas moi, pour Shabbat, d'accord ? Pour Shabbat normalement, on va dire que tu dois t'arrêter, normalement tu dois t'arrêter à la tombée de la nuit, d'accord ? Les Chachamim ont un doute sur le moment qui est avant la tombée de la nuit, de savoir est-ce que ça fait partie du jour suivant ou du jour précédent. D'accord ? Ça, c'est un doute qui est sur les quelques minutes avant la tombée de la nuit. Mais les Chachamim sont partis encore plus loin que ça. Il faut rentrer Shabbat encore plus tôt pour mettre une barrière. Ça, c'est les barrières. Ça, c'est ni écrit dans la Torah, ni on l'a compris par la logique. C'est une barrière que les Chachamim ont fait. Et enfin, cinquième chose qu'on va étudier dans la Mishnah, c'est toutes sortes de minagim et de choses que les Chachamim ont instaurées pour la bonne entente entre les gens. On avait eu un petit peu de dîner comme ça dans le Gittin, je sais pas si vous vous rappelez. De cas comme ça que les Chachamim ont instauré pour la bonne entente. C'est ni écrit dans la Torah, et on cherche pas à ce que ce soit écrit dans la Torah. C'est même pas une barrière pour une usage de la Torah. C'est des choses que les Chachamim ont instaurées selon les besoins qu'ils avaient du moment. Donc en gros, vous voyez que bon, c'est vrai qu'on a séparé en cinq catégories, mais en vérité, on a trois grandes catégories. On a ce qui est écrit dans la Torah, d'accord ? Ce qui est écrit dans la Torah, ou bien ce qui a été reçu par Moshe Rabbeinu, mais qu'on nous montre que c'est écrit dans la Torah. On a ce qui n'est pas écrit dans la Torah. Ce qui n'est pas écrit dans la Torah, ça ne sera jamais écrit dans la Torah. Donc, dans ce qui n'a jamais été écrit dans la Torah, on a ce qui n'est pas écrit. Et on a aussi les choses qu'on a retrouvées par la logique, d'accord ? On a les choses qu'on a reçues de Moshe Rabbeinu. Et après, enfin, dans la troisième catégorie, on a ce qui n'a rien à voir avec la Torah. C'est par exemple les barrières que les Chachamim ont instaurées pour ne pas arriver à une Avera, ainsi que tout ce qu'ils ont instauré. Alors maintenant, on va commencer.
Est-ce qu'on a vu directement ?
Est-ce que ? Non.
Ça fait pas partie
de la catégorie ? Ça vient de Moshe Rabbeinu. Non. C'est pas de ça. Alors, donc maintenant, on va commencer. Vous savez que la Mishnah est séparée en six darim. Six darim, c'est-à-dire six... Littéralement, ça veut dire un ordre, d'accord ? Ça veut dire, c'est séparé en six sections. Bien que dans la Mishnah, il y a beaucoup de Maseret, mais c'est séparé en six sections. La section qu'on va commencer, c'est la section de Zraïm. Zraïm, c'est la section qui va parler de tout ce qui est autour des plantations. Donc, ça va parler par exemple des lois de la Shemitah, des lois de la Trouma, tout ce qui est autour de la terre. Puisqu'on va parler de tout ce qui est autour de la terre, donc naturellement, on va commencer par Brachot. Pour nous dire qu'avant de profiter du fruit de la terre, il faut d'abord faire une bracha pour remercier Akadosh Baruch Hu. Puisqu'on va parler déjà des brachot, donc du coup, on va pas parler seulement des brachot qui sont autour de la terre, mais on va parler de toutes les brachot. Ça, c'est la logique, la Mishnah, qu'on se lance dans un sujet, et une fois qu'on est dedans, après on se permet des écarts quand on va parler de tout ce qui est autour de ce sujet. Donc la Mishnah commence à dire la chose suivante. Elle dit, Mematai Korin et Shema Bervi. À partir de quand on lit le schéma Béarvit le soir. Il faut savoir qu'on le dit dans le schéma est composé de trois paragraphes. Les deux premiers paragraphes, c'est écrit explicitement Béchor Bécha ou Fkumecha, qu'on a l'obligation de les dire en se couchant et en se levant. Donc c'est écrit clairement qu'il faut le lire en allant dormir, en se levant. Donc ça, c'est clair qu'il faut les lire dans le schéma du matin et le schéma du soir, c'est sûr. Vous remarquez que le verset il te dit quand tu Béchor Bécha ou Fkumecha, ça veut dire en te couchant et en te levant. C'est-à-dire qu'on a fait passer le coucher avant le lever. Puisque dans le judaïsme, le jour commence par la nuit. Donc c'est pour ça que la Mishnah va commencer par le Kriyat Shema du soir. C'est seulement dans la deuxième Mishnah qu'on va analyser le schéma du jour. Donc dans le premier paragraphe du schéma, on dit Béchor Bécha ou Fkumecha. Tu le diras en te couchant et en te levant. Dans le deuxième paragraphe du schéma, on te dit aussi Béchor Bécha ou Fkumecha. On remarque, c'est écrit aussi, Béchor Bécha ou Fkumecha. Donc, les Chachamim ont dit, dans ce cas-là, ça veut dire que, il faut le dire, en se couchant, et en se levant. D'accord? Bon. Et le troisième paragraphe du schéma, c'est quoi? De quoi on parle? Pourquoi on doit le dire? C'est parce qu'on parle des titites. D'accord? Et alors? C'est écrit, les mains, tiskeru, va, sitem, et kol, mitzvotai. Qu'est-ce qu'on dit dans le va, yaim, chamois? Dans le Vaïa Imshamoa, on te dit, Dieu il dit, et ce sera. Imshamoa, Tishmoa, Mitotai, si vous allez écouter mes mitzvot, alors vous aurez les brachot, et sinon, bah, Dieu préserve. D'accord? Vous les aurez pas. Alors, puisque tu me dis qu'il faut faire toutes les mitzvot, vient le troisième paragraphe du schéma, dans lequel on va te donner une technique pour te souvenir de mitzvot, pour ne pas les oublier. C'est quoi la technique? C'est le titit. C'est pour ça qu'on le rappelle tout de suite après le Vaïa, tout de suite après le Vaïa Imshamoa. Donc on démarre avec Mehmatai Korin Hatshema. À partir de quelle heure on peut lire le schéma Be'arvit le soir. L'heure du schéma. Je ne parle pas de Arvit. Arvit c'est une autre question. Arvit on peut le commencer plus tôt. Je parle du schéma. À partir de quand on peut lire le schéma le soir? Nous répond la Mishnah. Misha'a She'akohanim Nichnasim Le'chol Bitrumatan. À partir du moment. Alors, vous allez voir, ça c'est une phrase qui fait quelques lignes. Enfin, qui fait quelques mots, mais il y a beaucoup de commentaires sur cette phrase-là. À partir de l'instant que le Kohanim rentre pour manger la terouma. Alors, je vais expliquer ce que c'est. La terouma, d'accord, c'est quoi la terouma? La terouma, c'est un prélèvement qu'on donne pour le Kohen. Ce Kohen, il a le droit de manger la terouma seulement lorsqu'il est pur. Quand il est impur, il n'a pas le droit de manger la terouma. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, s'il a touché un reptile, ou l'a touché, d'accord? Il n'a pas le droit de manger tout ce qui est sacré. Littéralement, c'est écrit comme ça. On n'a pas le droit de manger tout ce qui est sacré. Il n'a pas le droit de manger tout ce qui est sacré jusqu'à ce qu'il sera pur. Et la Gemara explique que quand on dit ce qui est sacré, de quoi on parle? D'accord? On parle de la terouma. Là, maintenant, avec ce que je viens de vous dire, vous avez un exemple d'une chose qu'on a appris de Moshe Rabbeinu. La Torah te dit que le Kohen, quand il est impur, n'aura pas le droit de manger tout ce qui est sacré jusqu'à ce qu'il sera pur. Et qu'est-ce que te dit les Chachamim? Ils te disent, de quoi on parle quand on dit ce qui est sacré? On parle de la terouma. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que les autres, on a le droit de manger quand on n'est pas pur. Parce que, ce qui va se passer, c'est qu'il y a certaines choses pour lesquelles la Torah demande au Kohen et d'aller au Mikveh, d'accord? Et d'offrir un sacrifice le lendemain matin. Et c'est seulement après qu'il pourra manger certains sacrifices. Alors, pour la terouma, il n'a pas besoin d'attendre le Mikveh du lendemain. Le sacrifice du lendemain. Dès qu'il s'est trempé au Mikveh, d'accord, c'est bon. Le Kohen se trempe au Mikveh le soir. Il trempe au Mikveh le soir. C'est comme les femmes.
Il ne pas dans le Mikveh,
hein. Et sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce Kohen? D'accord? Qu'est-ce qui se passe avec ce Kohen, ce Kohen? Ce qui se passe avec ce Kohen, c'est quoi? C'est qu'on vient de dire qu'il n'a pas le droit de manger la terouma tant qu'il ne s'est pas trempé. Comme on sait que les Kohanim sont toujours des gens qui sont empressés.
Non.
Et qu'ils ont envie d'accomplir les mitzvot. D'accord? La Gemara a dit d'ailleurs que si on a choisi les Kohanim pour faire leur service, c'est parce qu'ils sont empressés, ils sont nerveux. Et on sait qu'ils font leur travail très très vite. C'est écrit comme ça. Donc, puisqu'on sait que les Kohanim sont pressés, donc on sait que les Kohanim, dès qu'ils peuvent se tremper et se tremper au Mikveh et manger à la trouva, on sait qu'ils feront tout de suite. C'est pour ça que quand on voulait donner un repère aux gens, on dit, vous voulez savoir à partir de quelle heure faites le schéma? Dès que vous voyez le Kohen en train de courir au Mikveh pour aller, ça veut dire que c'est le moment. Ça veut dire que c'est le moment.
C'est que ça brille, ça. Hein?
Ouais. Alors, là, après la Gemara, enfin je vous dis un petit peu la Gemara pose la question, elle dit, bon, c'est bien beau tout ce que tu me dis, mais pourquoi la Mishnah m'a pas dit directement que on peut faire le schéma à partir de la sortie des étoiles? C'est tout, pourquoi t'as besoin de me dire ça? Il y a plusieurs réponses dans la Gemara. Une des réponses que dit la Gemara, c'est qu'en vérité, la Mishnah voulait nous apprendre une autre halakha au passage. À la base, elle voulait nous dire qu'on lit le schéma à partir de la sortie des étoiles. Mais en passant, elle dit, tiens, puisque je passe la sortie des étoiles, je vais apprendre aussi une autre halakha. Quelle halakha elle nous a appris? La halakha qu'elle nous a appris, c'est que bien que le Kohen n'a pas le droit de manger les sacrifices jusqu'au lendemain, lorsqu'il va offrir le sacrifice d'expiation pour le fait qu'il est devenu impur, mais manger la terouma, il a le droit depuis le soir. Donc là, vous avez vu comment la Mishnah nous a pris une halakha au passage.
Une technique anti-spécialisation.
Une technique
anti-spécialisation.
C'est-à-dire?
Qui va prendre la halakha du Kohen, il ne peut pas la prendre que là où on parle du Kohen.
Ah.
Tout est mis un peu partout.
Ça, c'est vrai, quoi. D'accord. Bon, il y a plusieurs commentaires. Il y a un autre commentaire qui dit aussi que pourquoi on nous parle des Kohanim, depuis le début. Anti-spécialisation, ça s'appelle?
Les juges, ils font une pénale.
Ils ont un code pénal. Ouais, j'ai compris. Alors pourquoi, une autre explication que j'ai vue aussi, une explication jolie, qui dit que pourquoi on nous parle des Kohanim directement dans la première Mishnah de toutes les Mishnayot, c'est parce qu'on veut nous dire que quand on fait une mitzvah, il faut être bizrizout. il faut s'empresser comme le Kohanim. Et regardez, les Kohanim, il a le temps pour manger sa terouma. Il peut dire, bon, toutes les façons, puisque toutes les façons, je ne peux pas manger les sacrifices jusqu'à demain. Hein. Alors demain matin, j'irai au mikvé et je prends un sacrifice. Non. Le Kohen, dès qu'on lui dit maintenant, t'as une partie de ton impureté qui peut être levée, il court pour enlever cette partie de l'impureté.
D'accord ? C'est pas parce qu'il est gourmand.
Il n'y a pas que la terouma à manger.
Bon.
Non, mais c'est beau. Ça veut dire que dès qu'on lui propose d'enlever une partie de son impureté, il court. Il dit, bah tout de suite, je veux pas. Si je peux enlever un peu de mon impureté, j'enlève. Bien que ce n'est pas entièrement fini, ça enlèvera demain. Alors, Divrei Rabbi. Alors, donc ça c'est le. On peut commencer à lire le schéma à partir donc de la sortie des étoiles. D'accord, donc c'est la sortie de. C'est un peu avant l'heure de la sortie de Shabbat. Prenez l'heure de la sortie de Shabbat, vous comptez à peu près 10 minutes avant. Ad, maintenant, jusqu'à quelle heure? Il y a un temps de début, il y a un temps de fin. Puisque la Torah nous a dit, le problème qu'on a, c'est que la Torah nous a dit qu'on doit lire le schéma. Beshor Becha Ufkumecha. Beshor Becha, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque tu vas te coucher. Alors après, on va devoir déterminer qu'est-ce que ça veut dire lorsque tu vas te coucher. Est-ce que ça veut dire l'heure où on va dormir ou l'heure où on dort? C'est pas la même chose. D'accord? Si tu me dis l'heure où on va dormir, ben l'heure où on va dormir, en général, comme dit Rabbi Eliezer, les gens vont dormir en général dans le premier tiers de la nuit. Surtout à l'époque. Surtout à l'époque, ils n'avaient pas l'électricité comme aujourd'hui. Donc dès que la nuit tombait, on arrêtait le travail. Alors on avait un peu de bougie, etc. Mais dans le premier tiers de la nuit, tout le monde partait dormir. On verra qu'il y en a qui forçaient un petit peu et qu'ils allaient dormir à la moitié de la nuit, à Khatsot. D'accord, les couches tard. Ah, comme aujourd'hui, les gens qui se couchent tard, ils vont se coucher à peu près vers minuit, minuit et demi, une heure. Bon. Après, plus tard, c'est déjà ceux qui dorment pas. Et donc ça, c'est une première manière de comprendre Ufshor Becha. De dire que Ufshor Becha, ça veut dire lorsque tu vas dormir. Mais on peut comprendre Ufshor Becha, c'est dire lorsque tu dors. Il y a des gens normaux, ils dorment toute la nuit. Donc, jusqu'à quand je peux lire le schéma? Donc depuis quand? Ça tu m'as dit, depuis la nuit. Parce que les gens ne vont pas dormir. Pendant le temps qu'il fait jour, on ne va pas dormir. Les gens, on ne va pas dormir. On va dormir lorsqu'il fait nuit. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quelle heure je peux lire le schéma? Donc on va avoir trois avis dans la Mishnah. Premier avis, Ad Sof HaShmura Rishona. On a le droit de lire le schéma jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Donc vous prenez la nuit, vous la découpez en trois. D'accord? Premier tiers de la nuit. On estime que la majorité, les gens standards sont déjà partis dormir, donc c'est trop tard, on peut plus lire le schéma après ça. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. La halakha n'est pas comme lui. Va chachamim omrim, chachamim ils disent, d'accord, c'est-à-dire la majorité des sages disaient, à Khatsot. Il dit jusqu'au milieu de la nuit. Khatsot c'est le milieu de la nuit, donc vous prenez la nuit, vous la coupez en deux. Voilà, par exemple si on cherche Khatsot aujourd'hui, c'est minuit 37. D'accord ? Minuit 37, c'est Khatsot. Le terme Ashmura Rishona, ça correspond. Alors, il y a plusieurs explications sur ça. Le terme Ashmura, c'est-à-dire une garde. D'accord ? La Gemara explique que ça correspond aux gardes qu'il y avait dans le Beth Amikdash. D'accord ? Mais bon, après, c'est une expression qui a été prise, mais du coup, pour nous, Saf Ashmura Rishona, c'est-à-dire la fin du premier tiers de la nuit. D'accord ? Il y avait des gardes dans le Beth Amikdash. Et ils se relayaient trois fois par nuit.
Trois
gars. Alors, ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Quand on dit Rabbi Eliezer par défaut, c'est Rabbi Eliezer ben Orkenous, celui qu'on a appris dans la Mishnah Avot. Donc, Rabbi Eliezer ben Orkenous, bon, on connaît son histoire, d'accord, c'est celui qui a fait Teshuvah, etc. Donc il a fait, enfin Teshuvah. Donc, Rabbi Eliezer, non, c'est pas lui. Rabbi Eliezer ben Orkenous, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que jusqu'au premier tiers de la nuit. Donc on va dire aujourd'hui, ça serait l'équivalent de, je sais pas moi, 11h du soir. D'accord? Jusqu'à 11h. À 11h, les gens en général, ils vont dormir. Après, c'est les couches tard. Chachamim, ils disent que non, jusqu'à Khatsot. Jusqu'au milieu de la nuit. Rabban Gamliel, il dit, Hacheyale Amoud Ashacha. Jusqu'à ce que va se lever le matin. D'accord? Alors l'expression Amoud Ashacha, d'accord? Amoud Ashachar, c'est bon, et plus littéralement, ça veut dire la colonne du matin.
Oui, mais Romain aussi.
Alors, justement, c'est quoi ce terme Amoud Ashachar? Non, mais il y a Amoud, d'accord, colonne. Qu'est-ce que veut dire cette colonne? Bon, il y a plusieurs explications sur ça, mais une des explications qui dit, c'est que la lumière, quand elle se lève,
d'accord,
Amoud.
Ah, d'accord, Amoud.
C'est qu'on voit que la lumière, le jour, quand il se lève, on voit qu'il va s'élargir petit à petit. Donc on peut dire que le jour va former une sorte de colonne visuelle. Bon, il y a plusieurs explications sur le terme Amoud Hashachar. En tout cas, c'est à partir du lever, c'est jusqu'au lever du jour. Donc Rabban Gamliel dit, on peut lire le schéma toute la nuit jusqu'au lever du jour.
Et on l'a pris.
Attendez. Et la Gemara nous raconte. La Mishta, pardon, nous raconte. Maase Shebaou Banav. Il y a eu une histoire, une fois, les enfants de Rabban Gamliel, ils sont rentrés.
Ouais.
D'accord. Ils sont rentrés et, après Chatzot. Mibet a Mishté d'un mariage. D'accord. C'est un mariage qui s'est fini tard apparemment, donc ils sont rentrés très tard du mariage. Amroulo, ils ont posé la question à Rabban Gamliel, leur père, ils l'ont dit, lo karino et shema. Ils ont dit, dans la fête, on a oublié de lire le schéma. D'accord, ils étaient occupés, ils ont oublié de lire la fête. Ils ont oublié, pardon, de lire le schéma. Amar Lahem, il leur a dit, im lo ala amud ha-shachar, si le jour ne s'est pas levé, chayavi matem likros, vous avez l'obligation de lire. Alors la Gemara a posé la question, elle a dit, mais qu'est-ce qu'il nous apprend, qu'est-ce qu'on nous apprend avec cette histoire? Rabban Gamliel nous a déjà dit ce qu'il pensait. Il a déjà dit qu'on peut lire jusqu'au matin. Alors qu'est-ce que tu m'apprends par cette histoire? Tu veux m'illustrer ce que tu viens de dire? On nous apprend forcément quelque chose avec l'histoire. Et la Gemara nous explique les dessous de l'histoire, ce qui s'est passé. C'est qu'en vérité, les enfants de Rabban Gamliel, quand ils sont rentrés chez, donc à la maison, ils ont vu leur père. Je sais pas, leur père, il dormait pas ou ils l'ont réveillé. Hein, c'est une question que je me suis toujours posée. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, il attendait le téléphone.
Il attendait ses enfants.
Moi, je suis inquiet.
Il était sur Twitter.
Donc, les hôpitaux, la base,
regardez ce qui s'est passé. Ces enfants, quand ils sont rentrés, ils ont fait comprendre à leur père que d'après eux, même si leur père ne pensait pas comme Chachamim, d'après eux, la halakha est comme Chachamim. Puisque la halakha est comme la majorité. Et puisque la majorité des sages ont dit que on peut faire le schéma jusqu'à Khatsot, comme lui la nuit, donc c'est jusqu'à Khatsot. Alors c'est quoi la question qu'ils ont posée à leur père? La question qu'ils ont posée à leur père est la question suivante. Ils ont dit, on sait que Chachamim, ils sont en marloquette avec toi, mais on veut comprendre c'est quoi la marloquette. Est-ce que Chachamim y pense, quand Chachamim dit qu'on peut faire Kriyat Shema jusqu'à Khatsot, jusqu'au milieu de la nuit, est-ce que ça veut dire que eux ils pensent en vérité comme Rabbi Eliezer? Que Uveshor Becha, ça veut dire lorsque tu vas dormir. Mais pourquoi ils disent que c'est jusqu'à Khatsot? Parce que eux ils pensent que les gens vont dormir jusqu'à Khatsot. Donc là, dans ce cas-là, c'est sûr que puisque Khatsot est déjà passé, c'est trop tard. Ou bien on va dire qu'en vérité, Chachamim y pense comme toi, papa. Qu'en vérité, on peut lire le schéma toute la nuit. Que Uveshor Becha, ça veut dire lorsque tu dors. Ah, alors pourquoi ils ont dit jusqu'à Khatsot? Pour pas que la personne va s'endormir, d'accord? Pour pas que la personne va s'endormir sans lire le schéma. Ça, c'est la question qu'ils ont posée à Rabban Gamliel. On dit, est-ce que papa, est-ce qu'en vérité, Chachamim y pense comme toi, mais ils ont mis une barrière, ou est-ce qu'ils pensent comme Rabbi Eliezer, mais eux, ils pensent que les gens vont dormir plus tard? Qu'est-ce qu'il leur répond, Rabbi Gamliel leur répond, il leur dit, si le jour ne s'est pas levé, vous devez lire. C'est-à-dire, en d'autres termes, il leur a répondu, il leur a dit, moi, je pense comme vous aussi que la halakha est comme Chachamim, parce que c'est la majorité. Mais puis, est-ce que Chachamim, c'est seulement une barrière qu'ils ont mis? En vérité, Chachamim, ils pensent comme moi, qu'on peut lire le schéma toute la nuit. Pourquoi Chachamim, ils ont dit jusqu'à Khatsot? Parce qu'ils voulaient mettre une barrière. Mais une barrière, ça veut pas dire que si tu as dépassé l'heure, tu dois pas le lire. C'est une barrière qu'ils ont mis. Pour éviter qu'une certaine situation arrive. Mais si la personne n'a pas pu le faire, c'est évident qu'il doit le faire. Pas il peut le faire. Chayavi, Matan Nikrot. Vous avez l'obligation de le lire. Ça, c'est la réponse. Veloz de Bilvad. C'est la Gemara qui explique, c'est les dessous de l'histoire. D'accord. Veloz de Bilvad. Et je finis avec ça, la Mishnah. Pas seulement ça. Et la kol ma shamur chamim atratzot. Partout les chachamim ont dit jusqu'à Khatsot. D'accord? Partout les chachamim ont dit jusqu'à Khatsot. Mitzvatan atcheyala mouda shachar. Ça ne veut pas dire que la mitzvah s'arrête à Khatsot, mais ça veut dire que la mitzvah s'arrête toujours jusqu'au matin. Par exemple, Ekter chalavim ve'evarim. On sait très bien que les sacrifices qu'on a offerts pendant la journée, qu'on a fait la shrita pendant la journée, on a l'obligation de brûler leur graisse. D'accord? Donc leur graisse, enfin ce qu'il faut brûler, quoi, ça dépend des sacrifices. On a l'obligation de les brûler jusqu'à maximum le matin. Enfin, la même chose, les Chachamim, ils ont dit officiellement qu'il faut le brûler jusqu'à Khatsot. Pareil, ils disent Mitzvatan Atcheyala Mouda Shachar. La mitzvah, c'est de le brûler jusqu'au matin. Seulement, si les Chachamim ont dit qu'il faut les brûler avant Khatsot, c'est pour éviter qu'on dépasse le lever du matin. Parce que si on dépasse le lever du jour, c'est très grave, c'est une avéra. Pareil, Bechol Anechalim Le Yom Echad. Il y a certains sacrifices dans lesquels on nous dit, ça on le lit dans les Zoom communs dans la Tfila, dans lesquels on nous dit qu'on a le droit de les manger pour un jour et une nuit. Par exemple, le khatat. Quand le sacrifice notre khatat, quand on a offert une faute, sacrifice expiatoire, ce sacrifice-là, on peut le manger l'Eyom Valaila. Alors vous remarquerez dans les Zoom communs, on dit l'Eyom Valaila à Khatsot. On dit, on peut le manger le jour et la nuit jusqu'à Khatsot. En vérité, on peut le manger toute la nuit. Pourquoi les chachamim ont mis chatzot? Pour moi, c'est une barrière, parce que c'est interdit de le manger après le lever du jour. Donc, c'est une barrière. Imken, donc, mitzvaten shel amud hashachar. Imken, lama amru chachamim at chatzot? Dans ce cas-là, pourquoi les chachamim ont dit jusqu'à chatzot? Pourquoi les chachamim ont dit jusqu'à chatzot? Alors, ils ont répondu, ils nous disent, kede leachik et adam mina avera. Pour éloigner l'homme de la avera. Alors, la Gemara explique ce que ça veut dire éloigner l'homme de la avera, par exemple, pour le schéma. Elle raconte, elle dit, quand un homme, il rentre à la maison du champ, il est fatigué, il se dit, je vais rentrer à la maison, je vais manger un petit peu, je vais boire un petit peu, je vais me reposer un petit peu, et après, je ferai schéma. D'accord? Il va s'assoupir sur le canapé, et du canapé, il va finir au lit, d'accord? Et il va dire, bon, je vais me réveiller. Et du coup, il va zapper le schéma. D'accord? Comme elle dit, la Gemara dit, rotafto shena, elle dit, le sommeil va le happer. Après, il va se lever, quand il va se lever, ce sera déjà le matin. C'est pour ça que les Chachamim ont dit qu'il faut lire le schéma maximum jusqu'à Chatzot, ça veut dire avant d'aller dormir. Pas dire oui, je vais aller me reposer, je me lèverai après. Donc là, dans cette Mishnah, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris l'heure du début du schéma, ça tout le monde est d'accord. C'est à partir du moment où les Kohanim commencent à courir pour se purifier. Ça veut dire donc à partir de la sortie des trois étoiles. Ça c'est le début. Et l'heure de la fin, la halakha est qu'on peut lire le schéma. On doit lire le schéma, pardon, normalement, avant Chatzot. Arvit, par exemple, aussi, on doit le faire avant Chatzot. Donc avant minuit 37, hein, pour ce qui est aujourd'hui, par exemple. Mais si on ne l'a pas fait avant Chatzot, on peut le faire toute la nuit. Et pas seulement on peut le faire, on doit le faire. Ça, la réponse de Gamliel. Chayavi matan nikrot. Pourquoi on a mis la limite de minuit? C'est pour éviter que l'homme fasse une avéra et qu'il s'endorme et qu'il oublie de faire le schéma. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera avec le créat schéma du matin. Vous verrez qu'il y a beaucoup de détails, c'est pas simple. L'heure du début, l'heure de la fin, il y a beaucoup de détails. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui.